Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Les mecs que je veux ken.
Chères auditrices, chers auditeurs, mes amis, mes papillons de nuit, bienvenue dans ce 51e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Nous avons fini notre édition France Inter et comme transition, je reçois un humoriste mais aussi chroniqueur radio sur Europe 1, l'excellent Jérémy Lorca. Je remercie pour les commentaires sur Apple Podcast Rigel Maha, L-A-B-K-K, Hélène, FR05-10-84. J'ai partagé vos doux mots en story sur Insta. Pour ceux qui écoutent sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à faire une story en partageant l'épisode que vous écoutez, sans oublier de me taguer, je vous repartagerai. Pareil, si vous prenez une place pour mon spectacle point virgule, faites une capture d'écran, une photo, une story, taguez-moi, comme ça je reconnaîtrai votre nom sur la liste des résas, et si vous m'attendez après le show, on pourra aller boire un petit verre. Le couvre-feu sera à 23h... Le spectacle est à 21h15 tous les mercredis à partir du 9 juin au point virgule. Il dure une heure, donc on sera sorti vers 22h20. Au pire, si on n'a pas le temps de se poser, on pourra toujours papoter quelques minutes devant le théâtre et je serais très curieuse d'avoir votre ressenti. En fait, les auditeurs et auditrices du podcast, vous êtes le meilleur public. Je m'en suis rendu compte en septembre et octobre dernier. Si vous accrochez avec mon univers et que vous vous sentez capable de m'écouter autant, le spectacle est pour vous, en fait. Moi, je joue pour vous. Quand j'ai écrit mon livre, je m'adressais à vous. Non pas en vous imaginant toujours d'accord avec moi, surtout pas, mais en vous rêvant un peu amusé, un peu choqué, interrogé, en tout cas ouvert. Là, j'ai repris les plateaux. C'est la fin de la deuxième semaine de reprise. La première s'est très bien passée. Là, hier, c'était un peu plus dur. J'ai mélangé un ancien set avec des nouveautés et le public n'était pas très réceptif, mais je pense que même si je suis encore verte après 7 mois sans stand-up, c'était aussi une question de public, quoi. J'étais la seule nana du plateau, du second plateau, et certains gars, franchement, ils allaient très fort dans des blagues très crues, avec des gros mots, et moi, j'ai juste fait une blague sur mes règles, et j'ai entendu une meuf dans le public s'offusquer, faire « Ah !» mais dégoûtée. Et je la voyais pas, elle était dans le noir, mais j'ai dit bah, « Tu te dégoûtes autant 5 jours par mois, tous les mois ?» Les règles, c'est à peu près 38 ans de ta vie quand même. Ça fait beaucoup de jours à se répugner. Bref, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que cet épisode est sponsorisé par la marque française Miu, qui fait des culottes de règles et aussi des serviettes lavables de différentes tailles et épaisseurs en fonction de votre flux. J'ai testé, franchement, c'est super. C'est un peu étonnant au début. On se dit, bah merde, je vais la sentir vu qu'il y a un bouton pour fermer. Et en fait, non, on l'oublie complètement et puis c'est parfait. En début ou fin de cycle, quand les règles sont pas encore abondantes, je vous recommande franchement, sincèrement. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo ROSA15 pour moins 15% de réduction sur tout le site de Miu. Voilà, je suis contente en fait que le podcast évolue, grandisse. J'ai la chance d'être accompagnée maintenant d'une chargée de prod, Noah. Elle m'aide à développer le sponsoring, le merchandising. On réfléchit à quand et comment lancer les tote bags. J'ai commandé des stickers que je distribuerai à la sortie des plateaux. J'ai aussi commandé une tasse pour voir avec le logo du podcast. On verra ce que ça donne, je vous dirai. Pour le moment, on n'a pas encore de site internet, donc c'est en cours de commercialisation. Par contre, on veut créer une newsletter. Et si ça vous dit d'en faire partie, envoyez un mail à lesmecsquejeveuxken@gmail.com. L'adresse mail est aussi dans la description de l'épisode. Mettez en objet une newsletter podcast et comme ça, on vous ajoute. À moins qu'on trouve une solution plus simple avec un bouton. Peut-être que je ferai une story sur Insta, vous pourrez me donner votre mail, j'en prendrai bien soin. D'ailleurs, sur Insta, vous m'avez beaucoup demandé si j'avais des dates de tournée de prévues. Quelques messages de Réunionnais, de Toulousains. Merci, ça me fait très plaisir. Avec Noah, on va s'atteler à contacter les théâtres. Mais vu les confinements et reconfinements, voilà, toutes les saisons ont été décalées, c'est un peu bouché. Donc si jamais vous pouvez venir me voir à Paris, c'est le plus simple pour le moment. Et voilà, mais moi, c'est sûr que j'ai hâte de tourner en province, franchement, parce qu'à Paris, voilà, il y a beaucoup... avec tous les pros, il y a un côté showcase, quoi. C'est un peu du faux public. Et puis, il y a plein de gens qui sont tout le temps en train de te demander des invites. Les gars, c'est moi qui les paye, les invites. Mais
Mais je me réjouis, voilà, par rapport à ce que je vous disais, par rapport au plateau. C'est vrai que il faudrait réunir un maximum de gens, un public le plus large possible, des gens a priori très éloignés de moi. Je devrais pouvoir les faire rire, mais parfois ils sont contre, quoi. Et le plateau de la femme qui s'offusquait quand j'ai dit, c'était même pas une blague en fait. C'était je mélangeais des nouveautés. Qui avait très bien fonctionné et qui fonctionne, mais à un ancien set sur les Ouïghours, et puis à un moment que je ponctue en disant j'ai mes règles, et elle fait ah ! Et en fait, je testais des nouvelles blagues aussi sur le fait que ce soit moi qui soit une prédatrice sexuelle, non pas moi qui subis MeToo, mais qui le suit. Et je pense que je tiens un truc, et voilà, je veux dire, c'est encore vert, mais il y a quelque chose, mais je sentais que certaines personnes du public étaient en décalage, quoi. Déjà, je sais même pas s'ils avaient tous les tenants et aboutissants de MeToo, je veux pas être méprisante, mais en fait, ils me regardaient juste comme une pute. Et c'était terrible, parce que c'était pas mal de meufs qui me regardaient comme une sale pute. C'était violent. Hein. C'était violent, et puis ma réaction, ça a été de me dire, en fait, je ne veux jouer que devant les auditeurs et auditrices de mon podcast, ça ne m'intéresse pas de jouer devant personne, aucune autre personne. Et puis je me suis dit, non, il faut réussir à les gagner aussi différents qu'ils soient. Et voilà, c'est un peu mes réflexions, mes doutes du moment. Comment imposer sa différence, sans se nier, quoi. Parce que bon, j'ai pas envie de refaire la même chose. J'ai pas envie de reproduire des erreurs, à mon avis, que j'ai faites ces 3 dernières années. Alors je sais pas si c'est des erreurs. Mais j'ai adapté mes sets. Au départ, je faisais plein de références politiques sur l'actu. Et puis, on m'a dit... non, en fait, les gens n'avaient pas les refs. Les gens étaient là, quoi ? Ils n'avaient pas lu. Donc bon, je me suis dit, OK. Donc pour m'adapter au public des plateaux, finalement, j'ai fait que des trucs qui parlaient d'amour, de relations. Puis j'ai fait que des choses... Enfin, très vite, j'ai eu envie de parler de sexualité. Puis ensuite, attention, il y en avait qui étaient choqués. Donc au final, j'ai fini par parler plus des applications de rencontres, mais de manière soft. En fait, je me suis complètement, parfois, trahie, quoi. Et j'ai plus envie de le faire, et mon spectacle ne ressemble pas à ça. Et je crois que ces 7 mois de pause m'ont fait du bien. Et là, j'ai envie de jouer ce spectacle qui est très personnel sur l'amour et la sexualité, au point virgule, de le capter, de le filmer chaque semaine, pour avoir une captation au final, et en parallèle, de faire des plateaux et d'écrire des nouveautés sur un thème précis que j'ai en tête, et peut-être à la rentrée prochaine jouer un nouveau spectacle, voilà, produire, vu que l'écriture du livre est bientôt finie, ne pas perdre cette dynamique et rester proche de moi et ne pas vouloir à tout prix plaire à tout le monde, voilà. Et c'est compliqué. En tout cas, voilà, je vous remercie encore une fois d'écouter le podcast. Et maintenant, place à l'épisode enregistré sur Zoom en avril dernier, alors que j'étais encore dans le sud. Et décidément, le son Zoom est un peu sale parfois, je m'en excuse. Maintenant, je suis de retour à Paris, je vais faire gaffe à ce que le son soit impeccable, même si j'ai déjà commencé à réenregistrer de nouveaux épisodes et que j'ai encore des petites interférences, hein, malgré mes câbles blindés. Donc bon, j'attends que le studio SACD réouvre, mais accrochez-vous pour la discussion avec Jérémy Lorca. Franchement, malgré les petits grésillements, le léger écho, c'est un super épisode, j'en suis très fière. Je le trouve très, très intime et très émouvant par moments, donc dites-vous que vous écoutez, que vous surprenez une conversation téléphonique privée. Bon espionnage.
Hey, ça va ?
Tu vois ?
Mais oui, je te vois parfaitement.
Cool, c'est mon premier Zoom.
Mais non, mais attends, mais t'es trop... toi qui es normalement en avance sur tout, de toutes les tendances, je pensais que Zoom t'avait fait.
Ah, je suis pas geek du tout.
Je suis en train de te dépuceler de Zoom.
Et de podcast, c'est mon premier podcast.
Mais non, c'est aussi ton premier podcast. Je suis trop fière.
Bossa.
Jérémy, bon alors attends, je te lis direct ton petit poème si t'es prêt. Alors, Jérémy est beau. Je me flatte en disant qu'il est beau, car je trouve que l'on se ressemble, en fait. On a tous les deux les cheveux marrons, la peau pâle et des taches de couleur. Franchement, on pourrait jouer un frère et une sœur.
De ouf, grave.
Bien sûr.
Ouais.
Tous les deux, on parle beaucoup de notre célibat, nos errances sur les applis de rencontre, la difficulté de trouver des mecs qu'on veut vraiment ken. On partage en franc-parler le sang chaud, le goût du risque et enfin notre gourmandise, j'ai l'impression que tu prends souvent des belles photos de devanture de boulangerie dans le sud.
À mort.
Jérémy est élégant, chic, il s'habille bien, il a un père italien. Jérémy a du goût, ses stories Insta donnent plus d'idées déco que les pages de Vogue. Et surtout, Jérémy est drôle, à l'aise partout. Sur scène, à la radio, à la télé, sur les plateaux, Jérémy est un caméléon, capable de cliquer, de killer sur Click ou Europe 1, au Paname, comme dans son spectacle pour lequel il a décroché 2T dans Télérama. Je suis deg de l'avoir raté, on jouait tous les deux au point virgule de septembre à octobre 2020. Moi à 19h et lui à 20h. Et comme on a vite été reconfiné, j'ai pas eu le temps de venir le voir, mais à chaque fois qu'on se croisait, il était adorable, doux. Il m'en voulait pas si je finissais un peu en retard. Il avait toujours un compliment, un mot gentil sur mes dernières minutes de spectacle. Et ces mots me rassuraient. J'avais envie qu'on devienne amis. Voilà.
Je vais rougir.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
J'ai vu sur ton Wikipédia que ta mère, elle est d'origine polonaise.
Oui, c'est vrai.
C'est tes origines ashkénazes ?
Ouais.
Mais dingue, c'est quelles origines de, tu sais d'où
ben, écoute, là, tu sais, alors ashkénaze, je ne sais pas, mais en fait, je suis en recherche un peu de judaïté, tu sais, en ce moment.
Ok, ok.
Dans le sens où, si tu veux, moi, ma grand-mère est née à Varsovie. Mon arrière-grand-mère, tu vois, elle avait fait le travail forcé, elle avait été déportée pour le travail forcé. Elle a un nom à consonance très connoté. Tu vois, je m'appelle Jérémy.
C'est quoi son nom ? Ah, tu veux pas le donner ?
C'est son nom de famille, tu vois. Donc, mais je m'appelle Jérémy, ma sœur Sarah, ma mère Cathy. Enfin, tu vois, c'est voilà. Ouais, et du coup, je me dis, ah tiens, bah. Tout le monde me dit toujours, mais t'es feuge, etc. Et je leur dis, bah non, je crois pas. Et comme on parle très peu de religion dans ma famille, tu vois, j'ai pas énormément de rapport avec ma famille non plus. Mais du coup, je me suis dit, ah, ça serait pas mal de creuser le sujet quand même, tu vois. Parce qu'il y a pas mal d'indices qui font que.
C'est clair. Ouais. C'est sûr que c'est pas rien de porter ça. Et en plus, donc, des origines italiennes du côté de ton père.
Mon père, ouais, carrément. Et là, moi, je suis contente, j'ai retrouvé mon grand-père pendant le confinement. On ne l'avait jamais connu.
Ok, c'est un délire. Est-ce que genre, tu peux me raconter ?
Ouais, bien sûr, avec plaisir. En fait, si tu veux, moi, mon père n'avait jamais connu le sien. Enfin, en gros, il était parti en Italie avec, quand mon père, il avait 4 ans, tu vois. Et en fait, il y a tellement, tu sais, ce genre de légende dans la famille qui traîne, qui grossit, qui grandit et tout ça. Moi, on m'avait raconté, ah, mettons. En fait, parce que dans ma famille, soit du côté de ma mère ou de mon père, on est très, l'amour est très important chez nous, tu vois. On est des gens assez libres avec l'amour, on porte l'amour très, très fort. Et en fait, on a dit oui, mais en fait, il est parti, il a quitté ta grand-mère avec perte et fracas, il a voulu kidnapper les petits, il a été arrêté à la frontière, il a été interdit du territoire, etc. Tu vois, j'ai toujours grandi avec cette idée-là.
Ok.
Un peu comme ça. Et ma grand-mère, ensuite, n'a jamais reconnu un homme, gros chagrin d'amour, enfin bref. Tu vois. Et en plus, elle l'avait connue en lui donnant l'heure dans la rue. Et du coup, elle n'a plus jamais donné l'heure à personne. Enfin, tu vois.
Wow.
Très romanesque, un peu saganesque. Ouais. Et finalement, donc, ma grand-mère est décédée entre-temps et tout ça. Et puis, j'ai perdu mon père. Enfin, j'ai d'abord perdu mon père ensuite ma grand-mère. Et si tu veux, ça a toujours été pour mon père. Mon père est parti assez jeune. Et du coup, lui voulait tellement retrouver son père. Je me suis dit, ah, je retrouverai mon grand-père pour lui.
C'est magnifique. Et donc, ton père est décédé à quel âge ?
À 40 ans.
Et t'avais
J'avais 20 ans. J'avais 20 ans et je l'avais très peu connu. Mon père, je l'ai retrouvé mon père quand j'avais 16 ans, 15 ans. Donc, je l'ai très peu connu, en fait. Tu vois ?
Wow.
Ouais. Et finalement, donc, j'ai toujours voulu retrouver mon grand-père pour mon père, pour moi et pour mon père d'abord et pour moi ensuite, tu vois. Et je m'étais dit, j'avais fait des recherches, j'avais un numéro de téléphone et j'ai appelé des gens. Ça n'a jamais fonctionné. Jamais, jamais, jamais. Je m'étais même brouillé avec un de mes petits amis italiens qui devait m'aider. Et le con m'avait dit, oh non, finalement, je ne vais pas t'aider parce que tu te rends compte, ça, il pourrait faire un arrêt cardiaque ou je ne sais pas quoi. Oh, mais ta gueule, appelle. T'as dit que tu fais.
Ça ne le regarde pas ou il te soutient.
Fais un job de traducteur, quoi. Je suis à côté de toi, c'est tout. passe un coup de fil. Enfin bref, les mecs qui assurent vraiment pas. Bref, donc je l'avais quitté. Et pas que pour ça, mais entre autres.
Et moi, io potrei fare la traduttrice perché parlo un due.
Ah, magnifico, Rosa. Et bref, et du coup, en fait, pendant le premier confinement, ma cousine, en fait, eh ben, figure-toi, elle était confinée avec ma tante qui avait des débuts de Covid, donc elle était vraiment confinée seule. Et ma cousine, elle dit, maman, même si t'es malade, je te laisse pas toute seule. Et pour l'occuper, pour lui changer les idées, elle dit, viens, on va retrouver ton père. Et ma tante, c'était le rêve de sa vie, tu vois. Elle dit, ah, ma, elle, c'est ce qu'on ne retrouvera pas. Et en fait, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais c'est génial. Elle a passé une annonce sur Facebook, elle a traduit avec Google Translate en italien sur 80 groupes italiens, 2 heures plus tard, on retrouve mon grand-père.
Mais non.
C'est ouf, non? Et je lui parle en FaceTime, j'ai un oncle, une tante et tout.
Mais attends, c'est extraordinaire.
Ouais, il a 82 ans.
Extraordinaire, mais quelle émotion, t'as dû être tellement ému.
Ouais, incroyable.
Incroyable. Il habite où?
Il habite à côté de Bologne, dans le nord de l'Italie.
Mais c'est trop beau. Et donc, est-ce que tu as pu aller le voir encore? Non, pas encore.
Malheureusement, non, parce que l'Italie, c'était super chaud. Je te rappelle, après, au niveau du pré-confinement.
Très bien.
Après, on a repris le taf. Il fallait que je bosse. On n'avait tellement pas bossé. Ensuite, tu vois, bah, en fait, on a été confinés à tour de rôle, l'Italie et nous. Mmh. Tu vois, une fois. Donc, ma tante a pu y aller comme ça, presque en catimini, tu vois, pour le voir. Et moi, je suis pas encore allé et j'aimerais bien faire un trip, tu vois, aller le voir 2-3 jours, faire Venise, aller lui rendre visite, le rencontrer, lui offrir une chemise, enfin, tu vois.
Mais évidemment, et puis en plus, ça se trouve, tu vas écrire un livre là-dessus parce que c'est tellement riche. Quand tu redécouvres des personnes de ta famille, que tu... Enfin, tu vois, c'est un morceau du puzzle de ton identité hyper fort, quoi.
Ah ouais, et en plus de ça, tu sais, moi, c'est pas que je craignais un peu, parce qu'en fait, quand tu rencontres quelqu'un de ta famille, c'est limite un deuxième coming out, quoi, tu vois.
Ouais, ah ben oui.
Bah oui, parce que du coup, tu dois dire « Ah, coucou papy !» Tu vois, et en plus, le papy, vraiment, c'était... l'italien, quoi, tu vois, l'homme de la famille italien, etc. Je pense pas qu'il soit macho, mais quand même, tu vois, l'italien. Et tu sais que donc, on s'est rien dit, parce qu'on m'a pas posé la question sur ce sujet, je trouve ça un peu tôt, on s'était même pas rencontrés. Et je pense qu'il m'a Google, tu vois, il a Google, donc il a dû voir des choses, etc. Et le jour de la Gay Pride en France, il m'a envoyé avec sa femme, on te souhaite une merveilleuse fête aujourd'hui. C'est pas trop beau?
Mais j'ai envie de pleurer.
J'ai failli chialer, je te jure.
Waouh! Putain, c'est trop beau!
Ah, j'ai failli pleurer.
Ah, mais tu m'étonnes. Enfin, c'est
82 piges et tout.
82 piges, t'imagines l'intelligence du mec?
Ouais.
Émotionnel.
Incroyable.
Incroyable. Et donc, en fait, ton père, tu l'as peu connu et il t'a eu super tôt. Donc, ton père t'a eu quand il avait 20 ans.
Ouais, ma mère, elle avait genre 18-19 et mon père, il avait 19, ouais, je crois.
Ah ouais, et ta mère, comment ça se fait qu'ils aient eu des enfants aussi tôt?
Je pense, alors honnêtement, je refais un peu l'histoire. Non, je crois que bah, je pense qu'il se kiffait tout ça, mais je pense aussi que ma mère, elle a fait un truc, putain, c'est trop drôle, mais tu sais, j'en parle très librement parce que j'ai pas des bons rapports avec ma mère, mais j'ai mis longtemps avant de parler, et en fait, c'est trop drôle parce que j'ai reçu un texto de malade mental que je te raconte. Mais comme quoi, les gens peuvent être fous parfois. Je t'explique. En fait, ma mère, il faut savoir que je ne parle jamais de ma mère, ni en interview, ni sur scène, ni dans mes chroniques, tu vois. Et très peu en privé, parce qu'en plus, j'ai coupé les ponts avec elle il y a 4-5 ans et je m'en porte très bien. C'était une très belle décision, parce que parfois, tu sais, on sacralise les parents, mais tous les parents ne sont pas sacrés, tu vois. C'est quoi,
oui,
je pense. Et moi, ça a jumpé ma vie, le fait de couper les ponts, etc. Mais en revanche, je parle jamais d'elle parce que déjà ça m'intéresse pas vraiment et puis surtout encore moins dans le cadre du taf, quoi, tu vois. Et je reçois un texto de ma mère il y a une semaine, 5 ans plus tard, sans nouvelles, d'accord, qui dit: arrête de parler de moi, arrête de me dénigrer, je suis pas une pute, je suis pas une toxico, je suis pas des trucs que j'ai jamais pu dire à qui que ce soit que ma mère était pute ou toxico, c'est pas le cas, tu vois. Bref, et en gros, arrête de parler de moi. Et donc, et je lui réponds, bah, écoute, ravi d'avoir tes nouvelles, et je trouve ce message quand même un peu agressif.
Ouais.
Tu vois.
Ouais.
écoute, j'aimerais bien, parce que j'ai un demi-frère, une demi-sœur, et ma mère, elle n'a pas eu le mode d'emploi de comment être une bonne maman, entre guillemets, tu vois. Donc, elle est très, très maladroite, très dure et tout ça. Et du coup, je lui dis, bah, écoute, moi, j'avais envie de t'écrire, pas pour t'accabler, pour te parler de ce que j'ai vécu. Tu sais, des séances de psy, l'hypnothérapie, j'ai chopé une espèce de maladie chronique liée au stress, etc., tu vois, et de tous ces trucs-là dans le ventre. Et du coup, mais pas pour t'accabler, simplement pour te dire, mon petit frère, ma petite soeur sont encore jeunes, et si tu peux rectifier le tir, prends-en bonne note, et moi je te souhaite une belle vie, sois apaisée, etc. Tu vois. Et elle me répond, mais arrête de parler de moi.
Elle est folle. Où est-ce qu'elle l'a entendu ça? Où est-ce
Bah,
qu'on
j'en
l'a
sais
vu?
absolument rien, mais si tu veux, en fait, en gros, c'est comme les agresseurs qui t'agressent et ensuite te disent tu n'en parleras pas. Et je lui ai dit, mais tu sais, mon histoire, elle m'appartient, c'est mon histoire. Tu vois, donc j'ai pas décidé d'en parler tous les 4 matins, mais maintenant je peux évoquer ma mère librement parce que je sais que ça m'appartient et j'ai le droit d'en parler, c'est ma vie, tu vois. Pour répondre à ta question, je pense qu'en fait, ma mère, parce que ma mère, pareil, elle est très romanesque, ma mère, c'est Isabelle Huppert dans un film d'auteur, tu vois. C'est-à-dire que tu la mets dans un village où il y a zéro, un village hyper tranquille, tu la laisses 2 mois, le village il a feu et à sang. Tu vois le truc?
Je vois très bien, ouais, c'est dingue.
Mais elle a un côté en même temps très vraiment pour le coup très romanesque, tu vois. Elle a des punchlines incroyables, un peu même si elle est dure, hein, tu vois, mais dans sa dureté, elle a des punchs incroyables. Bref, et je pense, ma mère, elle a fait un truc de ouf. C'est quand elle avait 18 ans, elle avait fait s'est fêté son anniversaire par mes grands-parents. Et en fait, une fois que la fête était terminée, elle avait caché les valises sous le lit. Et en fait, elle a pris les valises, elle fait derrière la fête, elle dit, je me casse. Et du coup, elle leur a laissé la fête. Et elle est partie, tu vois. Et donc, je pense que peut-être le fait que elle voulait s'émanciper très vite. Et je dis pas qu'elle aimait pas mon père, mais après, c'est peut-être moi qui refais l'histoire. Mais je pense que j'étais peut-être aussi pas un prétexte, mais en tout cas, un prétexte à l'émancipation, à devenir vite une femme, tu vois.
Ok,
Je pense.
c'est incroyable parce que donc en fait tes parents n'ont eu qu'un seul enfant tous les deux ensemble, c'est ça?
Exactement.
Ok.
C'est moi, exactement. Et si ma mère, elle a quitté mon père quand j'avais 3 ans pour partir avec une femme.
Non.
Ouais, dans les années 85. Alors, pour le coup, tu sais, ce que là, c'est que bon, j'ai un sentiment très mitigé sur ma mère, mais je reconnais quand même un courage incroyable parce que
Ouais, non,
années
mais attends.
85, dans le nord
Oh!
de la France, et en plus, moi, tu sais, je viens d'une cité un peu chaude, tu vois. Mon père, c'était un boxeur. Mon père, Aldo, boxeur italien. Avec des demi-frères en tôle, quoi, tu vois? Tu vois le truc?
Je vois très bien.
Et des gens adorables, ça n'enlève rien, tu vois. Mais disons, tous ses demi-frères avaient un peu le sang chaud. Lui, il était boxeur, bon, dans une cité-cité. Donc, tu vois, ma mère qui fait ça, pour le coup, vraiment, je suis assez admiratif parce que
Elle aurait pu se faire casser les dents.
c'est un
Enfin,
courage incroyable, quoi, tu vois.
incroyable. Parce
Pour
que
le
tu
coup.
imagines à l'époque pour un homme et encore aujourd'hui, mais c'était considéré comme une insulte narcissique. T'imagines se faire larguer par une meuf et se faire larguer par une meuf qui part avec une autre meuf?
Ah, mais c'est tu sais, je vais te dire, mon père, c'est quelqu'un qui était très très romantique. Moi, j'ai découvert mon père après sa mort, tu vois. J'ai presque aimé mon père après sa mort, ça qui est un peu fou. C'est qu'en fait, c'était quelqu'un de très très romantique. Et en fait, il a traîné son chagrin d'amour toute sa vie. Il a reconnu personne après ma mère. T'imagines? Il parlait
Mais
d'elle souvent et tout ça.
c'est fou ce que tu me racontes. Et comment ça se fait que tu étais aussi longtemps éloignée de ton père, puisque tu me dis que tu l'as revu que de tes 16 à 20 ans, c'est
Parce
ça?
que, en fait, si tu veux, en fait, c'était très compliqué. Parce que, après, c'est vrai que si c'est très dur quand tu es adulte et puis quand il y a des histoires quand tu es petit, parce que tu penses cerner des choses, après, tu refais l'histoire, tu recoupes, mais en vrai, c'est pas la vraie histoire non plus, même avec le recoupement. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas dans les sentiments des gens, t'es pas dans l'exactitude. J'aimerais dire oui. Enfin, en gros, ça serait plus, c'est pas assez sibyllin, quoi. Tu vois, c'est pas ma mère, elle voulait pas que je voie mon père, elle m'empêchait. Et puis, en même temps, mon père, tu vois, il venait me voir en cachette au kermesse, mais il s'est pas bougé de ouf pour venir me voir. Enfin, tu vois, non plus. Donc, je pense qu'il y a une espèce de méli-mélo, mais je pense qu'il m'aimait énormément. Ça, c'est une certitude, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai pas vu mon père de mes 3 à mes 15. Et à mes 15 ans, ma mère, elle a reconnu un homme avec qui elle est toujours. J'ai un demi-frère et une demi-sœur. Et j'ai su que mon père avait eu le cœur brisé une deuxième fois. Tu vois l'histoire? C'est pour ça que j'ai. Tu vois, s'il était vivant, j'aimerais tellement le prendre dans mes bras, mais genre 10 minutes non-stop, et lui faire un câlin de ouf.
Ah, mais ouais. Et résultat, donc ça fait longtemps maintenant que ton père est décédé.
Ouais.
Et comment c'est,
Et
j'imagine
je
que...
te raconte des trucs que j'ai jamais racontés.
Mais tu sais, en fait, c'est étrange le podcast parce que parfois, je me permets des questions plus intimes que je me permets à des amis que je connais bien dans la vie de tous les jours. Mais parce que quand, en fait, c'est quand tu deviens très pote avec quelqu'un, t'oses presque plus poser les questions que tu poses au début quand tu rencontres une
Bien sûr.
personne. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais je fantasmais sur là où tu venais, sur ton histoire, parce que je sens un courage chez toi. Et je me dis, et en général, tu vois, moi, à chaque fois que mon père, il me dit de pas avoir peur, il me dit, attends, tes grands-parents étaient des résistants de la FTP Moy, etc. Et donc, c'est un truc que tu portes, quoi. Et donc, je me disais, mais pour comprendre Jérémy, en fait, je me dis, c'est même pas, c'est au-delà de ces blagues, de ces textes. J'avais une curiosité, je me disais, c'est qui ses parents? Et c'est, est-ce que tout ce que tu me racontes, c'est des choses, t'as pas encore fait du matériel de blagues? Non, c'est trop.
Écoute, tu sais, Kader me dit toujours d'en parler. Mathieu, Madénian aussi, je dis toujours en parler sur scène, mais si tu veux, en fait, en gros, comme j'ai eu une enfance qui est quand même assez glauque, entre guillemets, tu vois, et qui était vraiment difficile, c'est pas que je peux pas en faire des blagues, mais je vois pas en quoi ça peut être drôle. En fait, je vois pas ça si efficace que ça en termes de drôlerie. Enfin, ouais, ma mère, elle m'a oublié le soir de Noël à 11 ans. Ça fait trash, mais va trouver une vanne derrière. Non, tu vois, ça peut être super marrant, mais en vrai, tu te dis ok, mais en soi, est-ce que ça serait pas déjà une vanne? Tu
vois, le truc. Je crois que ouais, c'est déjà drôle en soi, quoi.
Parce qu'il y a des gens qui oublient la dinde, tu vois ce que je veux dire?
Bah ouais, c'est ça, pas le gosse. Bah c'est ouf, tu rigoles. Mais attends, c'est en même temps, ça se trouve, c'est plus le sujet d'un bouquin que d'un set de stand-up.
Je suis en train d'écrire en fait mon deuxième roman. Il parle de mon enfance, un peu compliqué. Il parle de ça. Mais c'est un peu, du coup, ça, en fait, c'est un peu dur à écrire ce truc parce que ça me replonge vraiment dans un truc que j'avais oublié. Tu sais que j'ai chialé à grosses larmes il y a pas longtemps et franchement, je pleure. Allez, tous les cinq piges, quoi. Tu vois, je dis pas que je suis un dur à cuire, mais pour pleurer maintenant, avant, je pleurais souvent quand j'étais gosse, mais pour pleurer adulte, vraiment, il m'en faut. Et là, tu sais, encore, on croit, j'ai fait des psychanalyses. On croit tout avoir résolu. Et puis, je me suis souvenu d'un truc. En fait, j'ai commencé à écrire, donc à restituer la scène dans mon livre. Et là, à pleurer, mais la crise de larmes qui ne s'arrête plus. Tu sais, genre, tu vois, le truc comme ça. Le truc, mais fou, de chez fou, tu vois. Et cette scène, je me souviens d'un truc. En fait, j'avais un chien, si tu veux. C'est un peu dur hein, ce que je racontais, mais c'est un truc que j'ai vécu. Et pareil, avant les textos de ma mère, j'aurais jamais assumé ça. Mais maintenant, je me dis, mais c'est mon histoire, j'ai le droit d'en parler. J'avais un chien que j'adorais, je l'avais depuis 2 ans. Et en fait, tu sais, à l'école, j'étais un peu le sale bébé, machin, etc. T'imagines, j'étais pas Rambo et en plus élevé par deux femmes, donc laisse tomber, quoi, tu vois. Moi, je prenais une petite cuillère, je soulevais le doigt, mais juste par mimétisme. Donc, t'imagines à la cantine ce que ça donnait comme scène. Et donc, j'avais ce chien qui était genre vraiment mon seul ami, entre guillemets, tu vois. Et en fait, un matin, il avait dû manger une de mes pantoufles, j'en sais rien, en tout cas la con. Et ma mère m'a dit, bah, c'est fini. Et moi, j'ai pas compris, tu vois ce que je veux dire. Et elle a pris le yinche, elle l'a mis dehors. Et tu vois, et moi, j'ai couru. Le chien est revenu, tu vois. Elle a reposé le chien. Elle a fermé la porte et c'était fini, il n'y avait plus de chien. Tu vois le truc. Et le fait d'écrire ça, en fait, je me suis souvenu de cette scène. J'ai pleuré, mais pleuré. Tu n'as même pas idée comme j'ai chialé, je te jure.
Mais quelle horreur!
Ouais, l'enfer total!
Mais comment on peut faire ça à un enfant?
Ouais, horrible! Mais comme quoi, le fait d'écrire ce livre est dur, en fait, aussi. Et c'est dur parce que c'est vraiment impliquant, tu vois?
Je comprends que ce soit dur, mais en même temps, c'est génial que tu le fasses parce que il y a encore besoin de témoignages, d'histoires. Et en plus, il n'y en a pas tellement des récits... de gens qui ont fait leur coming out. Enfin, il y a eu le livre d'Edouard Louis qui est...
Voilà, je t'explique. Alors, gros sujet, le livre d'Edouard Louis et en finir avec Eddie Bellegueule. En fait, voilà, c'est pas différent. En fait, moi, j'ai pas super kiffé ce livre parce que je trouvais que c'était que du négatif, négatif et il n'y avait pas de fin.
Ah, ça, c'est sûr que c'est 100% négatif. Il n'y a pas de... Il les sauve à aucun moment.
C'est que du crescendo dans le mal-être, tu vois.
C'est crescendo. Et lui, c'est... Comment dire moi, ce qui m'a pas dérangé mais attristé, c'est que c'est à la fin, mais en même temps, c'est assez sincère, mais tu comprends que les fantasmes que lui est en train de développer sont des fantasmes de viol et qu'en fait, il est tombé amoureux de ses agresseurs et qu'il n'a pas l'air de s'en sortir ou de développer un idéal plus romantique, quoi.
Oui, ouais, il y a ça dans le premier. Effectivement, il y a ça parce qu'il y a il y a tout ce truc où il s'est craché dessus toujours par la même personne. Ensuite, il y a le truc de sexuel, machin, etc. Et effectivement, ouais, je vois ce que je... Moi, je ne l'ai pas interprété comme ça, mais je comprends.
Moi, ça m'a parlé comme ça parce que j'ai des témoignages d'amis gays qui ont été abusés et qui ont retourné ça comme quelque chose que eux après ont pu chercher. Donc, en fait, cette histoire, c'est comme si au moment où je la lisais, je la connaissais un peu, mais ça me faisait encore plus de peine parce que j'ai envie de dire, oh non, tu veux pas dire. Tu sais, j'avais, c'est tout con, mais à la fin, tu dis, et là, il rencontre un mec adorable, alors que moi, c'est pas du tout.
Mais... Alors, c'est juste, ça s'arrête, je fais Sciences Po, je sais plus quoi, basta, oui. Tu vois. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait beaucoup de peine parce que si tu veux, j'ai l'impression que, en fait, moi, j'ai grandi quasiment dans le, pas très loin de chez lui et j'ai vécu les mêmes choses, mais 10 ans plus tôt. Et je me suis dit, putain, mais 10 ans plus tard, je croyais avoir pas essuyé les plates, il y avait des gens avant moi, mais ça n'avait pas changé les mentalités. Et en revanche, moi, le bouquin, parce qu'après, ça se transforme un peu c'est romancé, mais par contre, vraiment le message du livre, déjà, je parle de mon enfance, enfin, ces 3 chapitres, et c'est surtout, on choisit pas d'où on vient, mais on choisit où on veut aller, entre guillemets. Donc, inversion karma, brise le déterminisme social, prends ta chance, casse-toi de là, et fais ta vie, quoi.
Ouais,
tu vois.
Et ça, il le fait, ça, il s'en sort. Après, c'est peut-être que nous, ça nous parle moins parce qu'on est humoriste et que résultat, on se dit, à un moment, il va y avoir une blague, il va y avoir une truc. Et il n'y a pas de blague, il n'y a pas de blague. Par contre, ce qu'il y a, c'est que tu te dis, en fait, ce qui est... Ouais, moi, ça m'a fait un coup de lire ce bouquin parce que je viens d'un milieu, c'est pas... J'ai grandi, en fait, dans un environnement ultra privilégié parce que j'ai grandi à Paris. Et que j'étais au collège dans le 6e parce que mes parents avaient fait une domiciliation. Donc, en fait, j'ai jamais entendu l'insulte sale pédé, jamais. Et quand tu dis que toi, tu... En fait, la plupart de mes potes étaient naturellement féminins. Il n'y avait pas de... Il ne fallait pas être un bonhomme. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Ah ben moi, tous les jours de ma vie jusqu'à mes 15 ans.
Waouh.
Tous les jours de ma vie. Vraiment. Mais c'est pareil, j'en parle peu parce que je me dis c'est tristement banal et tristement commun, tu vois.
Ouais, et en même temps, je sais pas si c'est... Enfin, en même temps, pour plein de monde, je crois qu'il n'y a pas... c'est marrant, c'est Caroline Fourest qui disait ça dans un... Il y a un podcast qui s'appelle Coming Out et c'est une copine, Élise Goldfarb et Julia Layani. Elles interrogent plein de gays sur leur coming out. Il y a Mounir Majoubi, enfin... C'est hyper
intéressant. Le beau Mounir Majoubi.
Qui ressemble à Jonathan Cohen de ouf. Et en fait, je trouve que toutes ces histoires de coming out, elles sont toutes fascinantes parce que, en fait, tu te dis, est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile à faire dans la vie? Donc, en fait, c'est comme si ça donnait un prisme sur toutes les choses dont on peut... parce que moi, par exemple, c'est un truc que je peux ressentir avec le fait de dire, quand tu dis que tu es actrice, déjà, c'est un peu un coming out parce qu'à un dîner, les gens sont là... Ah, et te regardent un peu différemment, un peu comme une pute.
Oui,
ils ont des questions.
Ils peuvent être un peu agressifs aussi dans leurs propos tout de suite.
Très agressifs et ça change. Et ils peuvent être racistes de ce que tu es. Tu sais, tu dis, ah, alors les actrices, vous baisez avec tout le monde, etc. Donc, en fait, ton identité vient avec un ramassis d'inconscient. Et donc, quand j'entends les histoires de coming out, je me dis, en fait, ça me parle parce que je... Mais ce que disait Caroline Fourest à la fin, c'est qu'elle disait en vrai... qu'elle se sent pas victime, elle dit pour moi c'est aussi un cadeau parce qu'une fois que tu as vécu ça et traversé ça, ton rapport à la vie, elle le dit bien, elle dit qu'il est merveilleux et elle dit qu'en fait aussi elle trouve qu'entre personnes homosexuelles, quand tu te choisis, ça crée un terrain de familiarité immense.
Bien sûr, moi je trouve qu'il y a un test d'adrénaline à faire à tous les hétéros du monde qu'ils comprennent, pour qu'il y ait un peu plus de tolérance et de compréhension, c'est que tu demandes à n'importe quel mec hétéro ou nana hétéro de tenir la main une après-midi à un mec, à son pote hétéro, et de voir la réaction des gens dans les rues. Et après, ils vont tellement comprendre le regard des autres, tu vois. Et tu leur demandes déjà à 2 mecs de se tenir la main, je pense qu'ils ont le cœur qui bat.
Ouais.
Tu vois. Et franchement, je trouve ça un test à faire parce que, tu sais que moi, je suis à fond là sur Marié au premier regard.
Ouais.
L'émission, tu sais, c'est la seule, j'ai pas la télé, c'est le seul truc que je regarde sur M6, c'est ça, tu vois, le seul truc que je regarde à la télé, c'est l'émission sur l'ordinateur. Et en fait, je vois à quel point, en fait, ça me fait penser au coming out, ils ont peur de dire à leur famille, je vais me marier. Et je me dis, dis donc, ils emmènent pas large, hein, y a des gens qui ont annoncé des choses aussi compliquées, quoi, tu vois. Enfin, ok, c'est pas compliqué, mais tu vois, c'est, faut le sortir aussi. Quand t'as 15 piges, voir tes parents et dire voilà.
Mais donc, après tout ce que tu me décris, je me dis qu'en effet, pour toi, le milieu, entre guillemets, des plateaux, c'est de la gnognotte, c'est pas intimidant, vu là d'où tu viens, où t'as grandi.
Bah écoute, non, c'est pas que c'est pas intimidant, c'est que si tu veux, moi je suis arrivé à Paris, j'étais vraiment, je suis arrivé à Paris à 19 ans, et j'avais vraiment, j'étais comme, j'étais un lion, quoi. Enfin, j'avais une niaque, j'étais vraiment très endurci, même dans mon rapport à l'amour, etc. et tout. Je menais les gens à la baguette, j'étais un peu un salopard, tu vois, même quand je suis arrivé. Et puis, plus l'âge est dans, plus je me suis ramolli, et plus je suis devenu un peu plus chamallow, et plus je me fais avoir fatalement, tu vois.
Ah, c'est
Parce que
génial.
quand j'étais un salopard, on me courait après.
Mais évidemment, évidemment, ça c'est toujours le. En plus, c'est vrai que tu es très beau. Et quand est-ce que tu as toujours été très beau ou tu as eu une période où.
Arrête,
Non,
je me
mais
trouve pas
sérieusement,
très beau, hein.
si tu es beau, tu es un super beau mec. Tu pourrais être mannequin, franchement.
Bah, écoute, déjà pour répondre à ton truc, moi j'ai toujours, et c'est pas du tout pour faire genre, etc.
Ouais.
Bah, comme tout le monde, je pense qu'il y a des jours, tu vois, on a des jours avec, des jours sans, il y a des jours où on se trouve quand même un peu mignon, et puis il y a des jours où on se dit, putain, j'ai une sale gueule, quoi, tu vois, comme tout le
Oui,
monde.
oui, oui.
Mais en revanche, moi, honnêtement, je te dis, c'est que j'ai l'impression d'avoir toujours été en retard par rapport au physique. Je t'explique. Pour moi, j'ai un physique de boys band des années 80. Sachant que maintenant, les mecs beaux, c'est pas les mecs qui ont ce physique-là. Les mecs beaux, c'est les mecs qui ont une gueule un peu plus cassée, des bouclettes. Je sais pas, enfin, tu vois, on parlait à la fois de Louis Chappé, par exemple, parce que, tu vois, Louis, qui est un jeune humoriste qui a 23 piges, c'est un beau gars, c'est un Timothée Chalamet. Timothée Chalamet est beau. Moi, je suis le, moi, j'ai 38 ans, j'ai pas le même âge, mais en gros, je suis beau comme, enfin, je suis beau entre guillemets, je dis bien entre guillemets, comme l'étaient un peu des Alain Déo dans les années 80. Mais en fait, si tu veux, je suis arrivé, c'était trop tard ou trop tôt. Ouais, tu vois, mais pas beau comme ça, quoi.
C'est une bonne blague, je vois d'où ça part, mais pour moi, c'est parce que tu as une beauté juste tout simplement plus classique, dans le sens
Plus
où
classique, ouais.
Chappé, il a ce côté mignonné, mignon, en effet, à la Timothée Chalamet, où tout d'un coup, en fait, Timothée Chalamet a lancé une nouvelle mode. Moi, Timothée Chalamet, dans Call Me By Your Name, m'a tellement rendue folle. Enfin, ce film, quand même, m'a fait masturber juste 50 fois dans la journée après, j'étais dingue. C'est l'un des films
Sérieux?
zéro. C'est tellement érotique, la tension entre
Très
les.
érotique, très très érotique, ouais.
Et puis, je sais pas, et donc, sauf que résultat, à la fin, il devient cette espèce de. Et donc, je me suis mise après à regarder différemment les mecs plus petits que moi de taille ou plus maigres, les mecs maigrichons. Tu vois, en fait, il a beaucoup fait pour les maigrichons, Timothée Chalamet. Parce qu'à la base,
Ouais.
tu vois, toi, tu es grand, tu es fort, tu es une beauté classique, tu vois, tu as un visage bien construit et résultat, tu es genre la beauté. Sauf qu'avec la mode de Timothée Chalamet, tu peux regarder un chapé et être là, vas-y, je bouffe ça aussi, en fait, parce que
De
t'as.
ouf.
Tu vois?
Mais c'est que moi, ça m'arrive. Plein de nanas m'ont fait ça. Parce que tu sais, dans les années, enfin, dans mes années à moi, quand j'étais jeune, tu sais, les beautés d'avant, c'était les Pamela Anderson, c'était les Cindy Crawford, tu vois, toutes ces filles-là. Et puis après, il y a commencé à avoir des filles, plus à la Mélanie Douté, tu vois, Audrey Tautou. Et tu as commencé à reconsidérer, je trouve qu'on a commencé à reconsidérer le physique des filles. À revaloriser le charme, à revaloriser plus la plastique exubérante ou la femme fatale, tu vois. On a commencé à réaimer aussi la girl next door un peu et ça coule.
Je suis d'accord
Moi, il y a.
avec toi, mais moi, par exemple, j'ai l'impression d'avoir quand même un physique hyper marqué 18e siècle, tu vois, parce que j'ai pas du tout l'impression d'avoir un physique moderne, étant donné que j'ai une petite bouche et un visage plutôt fin, mais un nez quand même un peu busqué et quand même avec des hanches et des cuisses. Donc, en fait, j'ai l'impression que, à part le 18e siècle, où en
N'importe
effet,
quoi.
tu me mets à une fête et en mode, ça va, je peux gérer, là, aujourd'hui, on a quand même eu toute une mode, c'est un peu en train de changer en ce moment, mais moi quand j'avais la vingtaine, c'était les blondes, c'était les Mélanie Thierry, Sarah Forestier et Mélanie Laurent. Et ensuite, de 25 à 30 ans, c'était les bouches pulpeuses. C'était les meufs avec des bouches pulpeuses et des docks, c'était les Adèle Exarchopoulos.
Ah, c'est
C'est-à-dire,
drôle.
tu vois, genre un peu.
J'ai jamais fait cette réflexion.
Un peu métissé, un peu vénère, un peu. Et résultat, en fait, j'ai l'impression que la brunette à tache de rousseur, même ça, même comment dire, de Moustier en chopant son César et avec ses couves de L, elle a pas quand même tout à fait rendu encore ça vraiment à la mode, quoi.
Je t'adore.
Donc.
Écoute, je ne suis jamais poussé la réflexion à ce point-là au sujet des femmes, mais j'entends ce que tu dis et je
Tu
trouve ça
vois?
hyper intéressant. Mais après, je crois aussi que plus on avance dans l'âge et plus, ah, c'était pensif de dire ça, mais plus on est à même et capable de regarder quelqu'un.
Oui, évidemment. Et plus on crée notre propre cool, c'est-à-dire que c'est ta personnalité. Moi, plein de fois, le nombre de fois où j'ai été complexée d'être la bonne élève, la fille sage, tu vois, c'est pas pour rien que je dis aussi des trucs hyper choquants sur scène, c'est parce qu'en fait, c'est pour rattraper le, tu vois, ce côté, la case dans laquelle. Et en fait, j'ai toujours eu vachement de jalousie pour les meufs percées, tatouées, cheveux colorés. Et même moi, quand pour Sam, il m'avait mis les bouts de cheveux en
Tu te
rose, je
souviens?
continuais de me regarder comme. Rosa, la fille sage que je suis au final, mais peut-être moins maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, ce côté. En fait, je ne sais pas si toi, tu as ça, mais moi, j'ai une espèce de complexe vis-à-vis de toutes ces meufs qui étaient les meufs cool. Et ça a créé vachement de. Je pense. Ouais, de jalousie et d'énervement. Et sur les meufs qui sourient pas, qui sont comme ça, qui s'habillent. Mais je peux être complexée par une meuf en soirée, tu vois, c'est qui est là, qui fume un ouinge, un truc un peu débraillé, qui a les cheveux gras, et qui, et ben en fait, je sais pas pourquoi, même physiquement, elle va m'intimider, je vais me dire, ah, elle me, tu vois, je me sens inférieure à elle, je sais pas
Ah,
pourquoi.
il faut tellement pas. Moi, je m'en branle totalement des beaux gars ou des gens qui sont plus cool. De toute façon, je vais te dire, il y aura toujours. On est tous le moche de quelqu'un et le beau de quelqu'un. Il y aura toujours plus cool de nous que nous. Et il y aura toujours. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, et c'est quoi ta période alors quand t'es arrivée à Paris où t'as brisé des cœurs? Genre, tu t'es fait une période où t'as été dure avec les mecs,
J'étais
t'as.
dur de ouf, Rosa. Mais comment j'ai pu faire des trucs pareils? Quand je me dis, mais c'est pas possible que j'ai fait des choses comme ça à des gars, quoi, tu vois? J'étais vraiment un peu genre en mode bourreau des cœurs, quoi. C'est-à-dire que je me souviens, c'est pas très glorieux ce que je vais raconter, mais je me souviens par exemple, si j'allais beaucoup au Bataclan, tu sais, bien avant les attentats, il y avait des soirées folivores, crazyvores les samedis au Bataclan, années 80, et je vois un culte aux musiques des années 80. Et du coup, je me souviens, j'ai beaucoup chopé là-bas, et je suis aussi beaucoup rentré seul en pleurant, hein, je le précise, tu vois, le spleen de l'alcool parfois, le mauvais truc. Mais en revanche, je me souviens d'avoir ramené, c'est arrivé qu'une fois, d'avoir ramené un garçon, tu vois, voilà, faire la bagatelle. Et puis, et le mec se rhabille de chez moi, et je me rhabille en même temps. Il me dit, bah, tu ne te mets pas en pyjama? Je dis, ben bah, non, j'y retourne. Il me dit, pourquoi faire? Je vais pour choper un nouveau mec. Et ces gars-là à qui j'ai dit ça, c'était les mecs qui me rappelaient 3 jours plus tard.
Évidemment.
Mais t'imagines comment tu peux, mais comment tu peux dire ça à quelqu'un? C'est quand même le truc le plus odieux du monde, quoi.
Ouais, mais est-ce que je sais même pas si ça puisse changer un jour. Je crois que c'est le rapport du désir. C'est juste que, en fait, tu te rends, au moment où ils avaient pu avoir ton corps, il y avait encore quelque chose de toi qui leur échappait, qui n'était, c'est-à-dire que tu arrivais à n'avoir tellement aucun besoin d'eux, que c'est ça qui, tu vois, moi c'est con, mais je sais que. Je sais plus, la dernière fois que j'ai couché avec un gars, il s'est barré après qu'on ait baisé. Et je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas couché avec un mec, j'avais vraiment envie qu'il reste dormir et que ça lui a encore moins donné envie et qu'il s'est quand même barré. Et c'est con, mais si j'avais été un peu plus calculatrice et que juste après avoir baisé, je lui avais fait une dépêche, hein, parce qu'en fait, faut que je. Évidemment qu'en fait, il aurait voulu rester. Enfin, c'est
Bien
bête, mais
sûr,
ça fonctionne comme ça.
c'est tellement décevant. Tu sais, la vie, je trouve que parfois le comportement humain, il est tellement décevant. Et en fait, la manière dont réagissent les gens, dont agissent les gens dans les relations intimes, c'est tellement pathétique dans le sens où tu te dis, en fait, dès que j'utilise la stratégie, ça fonctionne. Dès que je suis un peu stratégique, on me rappelle, on me court après. Alors que moi, j'ai juste envie de t'appeler. Tu vois, je suis sincère. On s'est vu il y a 2 heures, j'ai envie de t'envoyer un texto, je calcule pas, je le fais. Tu vois?
Ah, mais
Mais
grave.
ça ne paye jamais.
Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est l'inverse du désir. Et attends, après cette période bourreau des cœurs, quel a été le mec qui, toi, a réussi à te choper? Quel a été le mec qui a réussi à tout d'un coup te faire fondre alors que tu étais
Ah
si.
bah tu sais, je me souviens très très bien, c'est mon premier gros chagrin d'amour. J'ai eu 2 chagrins d'amour à la suite. J'avais 25 ans. Et c'était, je crois, une énorme. Je crois, avec le recul, c'était une grosse blessure d'ego parce que j'avais vraiment été maltraité. On m'avait pas maltraité psychologiquement comme ça en amour, tu vois. Et en fait, c'est un mec, c'est un Américain. Et on s'est rencontrés à Paris dans les escaliers d'une boîte, tu vois. Je lui ai dit que son chapeau était cool. Il avait une espèce de, tu sais, de Bob Rasta un peu. Tu vois, un bonnet
Ouais,
Rasta. Et
ouais.
lui, il me dit, what, don't understand. Tu vois, il était, voilà, et on a commencé à discuter, je l'ai vanné un peu. Et puis, il était très, très, il avait un côté très Lenny Kravitz.
Ok, très stylé.
Lenny à la belle époque. Et donc, finalement, s'ensuit une espèce d'histoire d'amour passionnée, pareil, très romanesque, tu vois, parce qu'on lui prêtait un appartement sublime et complètement vide, il n'y avait que des chandeliers, il n'y avait pas d'électricité, 300 mètres carrés, passe Victor Hugo dans le 8e. Tu vois, on mangeait du homard, je me souviens, enfin, c'était vraiment la comédie romantique de l'hiver, quoi, tu vois.
Ouais.
Il part, il pleure, il est avec le taxi en bas de ma fenêtre et tout. Et puis finalement, on s'écrit. Et puis, il me dit qu'il m'aime, qu'il est amoureux de moi, qu'il veut me présenter ses parents, qu'il veut me présenter sa famille. Et il m'envoie une espèce de faire-part. Là-bas, il faisait je sais pas si c'est une coutume, en tout cas, lui avait fait un faire-part d'invitation pour son anniversaire. Et il m'avait nommé. Et spécial guest, Jérémy Lorca, le meilleur French kiss du monde, machin, etc. Tu vois.
Wow.
Donc, super mignon. Et moi, à l'époque, je bossais dans un bar à putes, figure-toi. J'étais barman dans un bar à putes. Et.
Trop stylé.
Putain, c'est que je ne sais même plus. Tu sais qu'on m'est tombé dessus parce que j'ai dit fils de pute, alors que fils de pute, c'est vrai que c'était pas. On m'a dit que j'étais putophobe. Oh. Et je me dis, putain, mais. Tu vois le truc?
Ouais.
Évidemment, c'est peut-être la mauvaise insulte, mais ça n'a rien à voir avec les prostituées. J'ai du respect pour les prostituées. J'étais travaillé dans un bar où il n'y avait que des prostituées pendant un an et demi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, j'aime bien l'insulte fils de pute. Et c'est vrai que soi-disant, elle est plutôt phobe, mais j'aime bien dire putain aussi. Et c'est dur, quoi. Alors après, apparemment, le langage évolue, il faut s'y faire.
Oui, parce qu'en plus, je pense que le mot est décorrélé de son intention. Mais après, tu peux pas, ça justifie pas. Mais bon, tu vois-t-il que, bon, un bar à prostituer, s'il faut, un bar à tapin. Bon, bref, Et donc, toujours est-il que le mec ne voulait pas me donner mon congé parce que pour aller, donc je démissionne, je quitte mon job. Pour aller passer 2 semaines à San Francisco, tu vois.
Wow.
Et là, le mec m'avait dit qu'il avait tout son temps pour moi. Et en gros, j'arrive aux États-Unis. Il vient me chercher à l'aéroport avec des tulipes et tout. C'était sympa. Et le premier jour, il me laisse seul dans la ville tout de suite. Il me dit, ah, j'ai un cours et il se barre. Et il me laisse 5 heures tout seul. Bon, moi, je me démonte pas. Je reviens avec 8 sacs de shopping, etc. Je fais le tour de trucs et tout. Et en fait, le mec n'était jamais là. Et au bout de 2 jours, il me dit, t'as mal compris. En fait, t'es venu, mais t'étais juste un date.
Quelle horreur!
C'est la première fois de ma vie que je prenais l'avion.
Oh mon Dieu! Oh le monstre! Oh là là! Mais, et résultat, c'est un film. Donc tu te retrouves seul dans San Francisco?
En San Francisco. Et en fait, du coup, bah, je me barre.
Ce qui tombe bien, c'est que c'est quand même la première ville gay au monde. Donc,
Ouais, alors bon, j'en ai pas vraiment profité, mais carrément. En fait, je me rappelle, j'ai dévalisé, j'allais dans une boutique, une espèce d'Armani, ça coûtait beaucoup moins cher qu'en France. Et heureusement, je suis devenu pote avec le. À force d'y aller tous les jours et de me consoler dans les fringues, pote avec le manager qui m'en est en débargué le soir. Tu vois, donc
bah, ça, ouais, c'était sympa. Que ça. Et tu t'es déjà allé à Tel Aviv?
Non, jamais. Je peux pas y aller si je tombe amoureux à tous les coins de rue.
Ah ouais, c'est sûr. Et donc
alors San Francisco, ouais. San Francisco, là où je me suis perdu, c'est que si tu veux, donc en fait, en gros, pendant juste avant que au bout de 3 jours, on s'est quitté, quoi. Mais en fait, je me disais, il est distant et je m'accrochais à cette idée en disant non, c'est pas lui, il joue un jeu, c'est pas ce mec-là, il faut que j'insiste. C'est, tu vois, je voulais me raccrocher à un truc qui n'existait déjà plus.
C'était love.
J'étais love, je me barre et l'histoire, elle est assez. J'avais raconté dans mon premier bouquin, l'histoire, elle est un peu dingue parce que je me barre. Il vit dans vraiment cliché, pas loin du pont, dans une rue en pente. Ma valise, en fait, elle lâche à ce moment-là. Merci, je ne sais plus quelle marque, tu vois. Les caleçons, le pull, il y a un taxi qui roule sur un cachemire. Enfin, l'horreur totale, tu vois.
Oh ouais.
Moi, je ne sais pas où aller. Je suis en pleurs. Je ne sais pas où aller.
Oh non.
Je prends un taxi, il y a déjà des gens dans le taxi parce que là-bas tu partages les taxis, enfin tu vois. Et du coup, je savais que le quartier gay s'appelait Castro. Et du coup, moi je dis je connais rien, il devait bien y avoir Castro Hotel, donc j'ai Castro Hotel, etc. Et je pleure dans le taxi, mais en même temps j'ai honte parce qu'il y avait un couple de gays à l'arrière, enfin tu vois.
Non.
L'horreur. Et là, le mec me dépose en Chinatown dans une espèce de truc sordide, à $20 la nuit, où en fait, là, t'ouvres la porte et t'avais un immense escalier et j'avais 2 semaines de valise, tu vois le truc énorme, plus de manches pour la valise, enfin l'horreur. Et lui m'a retrouvé dans cet hôtel.
Ok.
Enfin, la comédie, parce qu'il a fait tous les, en fait, il a appelé tous les hôtels. Et en fait, son dernier espoir, c'était Castro. Il s'est dit, il a fait le même réflexion. Il a dû dire Castro, il connaît pas Castro Hôtel, machin, etc. Et tout. Il m'a retrouvé. Je suis retourné chez lui. Et en fait, là, ça a sonné le début de la fin de ma carrière sentimentale. J'ai fini d'être un salaud parce qu'en fait, bah, lui m'a toujours hyper maltraité. Et en fait, moi, j'ai essayé de tout faire pour le reconquérir.
Mmh.
Et à partir de ce moment-là, j'étais foutu en amour.
Mmh.
Je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, ça a complètement inversé la tendance. Je suis devenu celui qui voulait reconquérir l'autre. Je suis plus devenu celui qui brisait le cœur de l'autre, tu vois.
Incroyable. Mais en même temps, et tu veux dire que c'est lui qui a entraîné ce pattern et qu'après, dans tes relations amoureuses avec les autres mecs, ça s'est reproduit encore à nouveau.
Ouais, exactement, parce que si tu veux, en gros, en plus, tu sais, ces genres de mecs, en plus, ils ont la capacité d'être hyper durs. Je me rappelle, il m'avait conduit à l'aéroport et juste, il avait sorti la valise du coffre. Il avait insisté, je voulais prendre un taxi, il avait insisté pour me conduire à l'aéroport. Et il m'avait même pas regardé, il était en train de la bagnole, il avait démarré, il était parti.
Mais quel enculé!
Tu vois le truc, l'enfoiré.
Fils de pute, pardon pour les putes,
j'ai, j'ai pris la plus grosse cute de ma vie, Rosa, dans l'avion.
Oh là, j'ai ça, c'est tout la vie. J'espère que c'était un peu drôle quand même. Parce que ce
ouais. L'hôtesse m'a dit, mais arrêtez avec le champagne, tu vois, le prenez.
Oh là là, c'est fou comme on peut être malheureux en amour et en même temps, t'as des gens qui sont... Parce que moi, je trouve ça beaucoup plus grave ce que lui t'a fait que ce que tu racontes. Quand tu dis que tu brisais les cœurs des mecs que tu rencontrais au Bataclan, c'était quand même... Si c'est des coups d'un soir...
Oui, c'était des coups d'un soir, c'était pas non plus, tu vois.
Donc, en vrai, c'est juste que t'étais détaché, que t'avais vraiment juste détaché la question du sexe, des sentiments à ce moment-là et que tu disais, écoute, même si on a bien baisé, en fait, pour moi, ça s'arrête là. Donc, même si pour eux, ils espéraient autre chose, il n'y a pas de mensonge. Là, ce que tu me racontes, c'est que le mec te tège, puis vient te chercher, te sortir, joue le chevalier, puis ensuite t'abandonne. Enfin, c'est ultra pervers, quoi.
L'horreur. Et après ça, j'ai enchaîné avec quelqu'un d'autre pareil, quelqu'un d'autre que j'ai rencontré super, j'étais très amoureux. Je le quitte parce que ça n'allait pas, trop de mauvaise foi, enfin, il y a des trucs qui n'allaient pas entre nous, tu vois. Okay. Et je le quitte. Et finalement, je regrette. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Du coup, je veux le reprendre et lui me dit non.
Oh non.
Et j'ai une scène où il me dit, j'étais en train de chialer, il me dit, ça fait 5 minutes là, tu peux me laisser s'il te plaît maintenant.
Oh merde.
Et alors là par contre Rosa, je te jure, j'en ai vraiment chié, j'ai perdu 11 kilos, je suis restée dans le noir pendant un mois et vraiment, je te jure, je me mets foutre en l'air limite, hein, vraiment. Et c'est là où j'ai écrit ma première pièce de théâtre pour me changer les idées, parce qu'en fait, il y a une pièce de théâtre qui m'a sauvé la vie, ça m'a fait tellement rire, que du coup, je l'ai regardée en boucle, une pièce de boulevard, tu vois, un peu machin. Et c'est comme ça que j'ai écrit ma première pièce sur un chagrin d'amour.
Incroyable. Ton tout premier spectacle, ton tout premier one man.
Non, ma première pièce de théâtre en tant qu'auteur.
Ok.
Tu vois. Et après, c'est vrai que je te jure, les chagrins d'amour, ça a été important dans ma vie parce que mon premier spectacle, je l'ai écrit suite à un autre chagrin d'amour. Le seul mec avec qui j'ai vécu, c'est une histoire un peu compliquée, mais on a vécu ensemble pendant 1 an et demi. Mm-hmm. En fait, il est sorti juste après moi avec mon ex et ils sont restés ensemble pendant 3 ans. Ouais, les deux savaient que c'était mes ex, tu vois ou pas?
Oh putain, et en même temps, ça fait sens dans le sens où, en général, si les deux...
On est attirés par les mêmes personnes, voilà. Évidemment, tu vois.
Ouais, et puis, ah, putain, mais quand même, pour toi, c'est dur. Waouh.
Ouais, c'était dur.
C'est dur,
mais
c'est dur l'amour.
Après, si je suis très honnête avec toi, j'ai aussi fait du mal à des gens. Enfin, tu vois, les gens qui étaient amoureux de moi, je ne l'étais pas vraiment. Je ne vais pas jouer la blanche colombe, tu vois. Après, ça a marqué vraiment mes deux premiers gros chagrins d'amour. J'ai beaucoup souffert en amour, mais j'ai aussi fait souffrir en amour, je le sais, tu vois.
Oui, bien sûr. Et surtout que tu dois être quand même assez courtisée parce que être sur scène, être drôle, plus être beau, il n'y en a pas tant que ça, tu vois, mine de rien.
Écoute, figure-toi que j'ai arrêté d'avoir du succès avec les garçons quand je suis montée sur scène.
Mais non !
Je te jure, c'est vrai. Dès que j'ai sorti un livre et je suis montée sur scène, c'était fini pour moi.
Je te crois pas.
Ah si, je te jure, je pense que ça doit faire un peu peur que tu racontes des histoires, j'en sais rien, peur que si, peur que ça, mais franchement, très peu. Et même les gens à qui je parlais sur Tinder qui sont venus voir le spectacle, à la fin, ils me disaient « Non, c'est super, t'es fidèle à ce que tu m'avais dit, etc. » Mais non, enfin, non, tu vois, je te promets.
Attends, mais
moi, ça a fait l'effet inverse. Je pense qu'en fait, je pense que les seuls. Moi, j'ai une théorie là-dessus, mais tu me dis si je me trompe.
Ouais.
Je crois. C'est peut-être un cliché absolument. En tout cas, enfin, c'est une réflexion que je me suis faite. J'ai l'impression que t'as un peu la carte quand t'es un mec hétéro auprès des meufs, quand tu fais du stand-up. Mais si t'es une meuf, t'impressionnes les mecs. Et si t'es gay, t'impressionnes aussi les mecs ou tu fais peur aux mecs.
Je pense que pour moi, ça dépend des mecs et ça dépend des gays, dans le sens où si tu es sur scène, ça veut dire qu'il y a un degré où tu assumes à donf, et peut-être que pour certains gays qui n'assument pas encore aussi haut et fort, il y a un truc où forcément ça les renvoie en fait au chemin que eux ils ont à faire, et peut-être que ça casse une partie de leur excitation qui est liée au secret, et donc résultat, ils se disent ah mais non, en fait là tout d'un coup c'est limite, ce serait avoir une vie d'hétéro, enfin tu vois, puisque tout est au grand jour.
Ouais,
mais peut-être que faudrait que ce soit genre résultat des gays, mais enfin ultra, je sais peut-être limite genre des intellos ou des gens qui le sont, mais dans leur vie publique ouvertement à mort. Oui. Voilà. Et donc eux, ça poserait genre zéro, zéro, zéro problème. Et pour les mecs, écoute, figure-toi que l'histoire de la meuf marrante qui est pas sexy, j'étais persuadée de ça au début, et figure-toi ouais. que quand même, et bah pas tant que ça, moi je trouve que j'ai aussi pas mal de succès ces deux
dernières. Ah génial. Non, parce que moi, en fait, je te disais ça, c'était pas tellement un cliché, c'était plutôt du constat, c'était, je voyais plutôt, moi, plein de potes de stand-up se faire draguer par des meufs à la fin. Et je voyais jamais mes potes, mes copines se faire draguer par des mecs, tu vois.
Ça, c'est sûr que tu te fais pas. Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a pas l'effet. C'est clair que les nanas fonctionnent vachement à l'admiration. Donc, si un mec a du talent, mais il a fait 90%. Sauf ouais. que si t'es une meuf et que t'es un peu potable, si t'es sur scène, t'as beau dire des dégueulasseries. En fait, moi, je me suis rendu compte que ce que je disais sur scène, mes blagues sur la sexualité, je pensais que ça allait dégoûter les mecs, mais en fait, ça les excite un peu. C'est très bien, tu vois. Et qu'en fait, ce que je raconte, même, tu vois, au départ, je commençais à avoir des blagues un peu cheloues sur ma poitrine et que mes tétons et que j'avais honte parce que je trouvais que mes tétons étaient trop gros, etc. Et en fait, j'étais persuadée que ça allait dégoûter les gars et pas du tout. Ça les dégoûte pas. Et non, et parfois même, ça les excite. Et donc, résultat, j'ai pas... En fait, quand je peux arriver à choper après un plateau ou après un spectacle, pas parce qu'ils admirent mon talent, mais parce que si physiquement, ils me trouvent cute et qu'en fait, ce que je raconte, ils se disent, si elle parle de sexe, c'est qu'elle fait du sexe, bon, en fait, ils ouais. disent, tu vois. Donc,
ah, c'est cool, ça. Non, mais en tout cas, moi, j'ai pas de succès par rapport à ça, mais c'est trop drôle ce que tu dis. Tu sais, les trucs qu'on trouve un peu honteux, parce que en fait, j'essaie d'écrire sur un truc, parce que j'ai aussi vu une psy pour par rapport à ma vie sentimentale pour un truc qui était un peu bizarre. Genre, pareil, j'en ai pas encore parlé sur scène, mais je pense en faire un matériel. Et j'en ai parlé à quelques potes récemment, et les quelques potes étaient plutôt excités que choqués. En fait, c'est j'ai ma première copine, quand je l'ai quittée, je suis devenue actrice porno. Tu vois, et en fait, ça m'est arrivé 4 fois. C'est-à-dire que si tu veux, c'est-à-dire que en fait, j'ai un autre ex. En fait, après moi, il est devenu acteur porno. J'ai un autre qui était hyper mignon, hyper gentil, qui fait des photos très plus qu'érotiques. Et j'en ai un autre qui est devenu escort boy après moi.
Ok.
Mais juste après moi, tu vois. Et en fait, moi, au départ, je me disais, c'est peut-être un hasard, etc. Après 4 fois, ça fait beaucoup. Et si tu veux. C'est pas genre, pour moi, je comptais pas faire ça, genre je me la raconte, ouais, je les initie à un truc. C'était plutôt, non, c'est l'angoisse, dans le sens où je vais pas, moi, je vais à un date, je me dis, putain, le potentiel, tu vois, j'essaie d'imaginer sur YouPorn ce que ça peut donner, de me dire, mon Dieu, faut pas que j'entraîne là-dedans, non, mais me fréquente pas, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est un putain de prémisse, il y a plein de blagues à faire et surtout que c'est dingue.
J'ai pas encore vraiment écrit là-dessus, mais j'ai raconté ça à des potes et au lieu d'être un peu « oh mon pauvre », ils étaient hyper excités par le côté d'état. Ah bon, mais tu fais… Mais tu vois, alors que moi, c'est plutôt c'est pas du tout honteux, mais c'est plutôt un complexe entre guillemets parce que je me dis « putain, j'espère que c'est pas ma faute si je les ai vrillés d'un truc, alors je pense pas ». Et en même temps, j'ai peur de, si je ressens à quelqu'un, de vriller quelqu'un.
C'est marrant. Et t'es sortie avec beaucoup de filles dans ta vie ou juste celle-ci?
Une fille.
Ouais. Mais cela dit, c'est ça qui me marque le plus. C'est que la seule fille avec qui t'es été, elle soit devenue actrice porno. Il y a une espèce de waouh, c'est assez dingue. Et c'était une super jolie fille.
Ouais, j'étais très amoureux d'elle. Tu sais, okay. Et d'ailleurs, c'est très, très troublant parce que, évidemment, hein, tu sais, 20 ans plus tard, j'ai plus de sentiments. Mais par contre, si je sens son parfum dans une parfumerie, ça me trouble encore.
Waouh!
Ouais, ce parfum, 20 ans plus tard, t'imagines? C'est incroyable, non?
Résultat, c'est en sortant avec elle, quand tu étais avec elle, que tu as compris que tu étais gay ou tu t'en doutais déjà avant? Tu avais besoin de vérifier?
Non, en fait, je t'explique, je te dis les choses un peu de manière un peu crue. C'est que, en fait, quand j'étais petit, je me faisais virer de toutes les nourries. J'en ai fait 5-6 parce que je voulais embrasser les petits garçons et je voulais déshabiller les petits garçons et les embrasser sur la bouche.
Ok. Donc c'était
mes copains de classe, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc du coup j'étais voilà, j'adorais je trouvais ça, les petits garçons trop beaux, etc. De mon âge, hein, tu vois. Et après j'ai complètement occulté ça. Tout le monde me traitait de sale PD. En fait, ils savaient avant moi que j'étais gay, donc c'était un peu bizarre parce que pour moi, je ne me l'étais même pas vraiment dit à moi-même. Enfin, tu vois, c'était comme un truc. Puis après, comme je refoule, tu sais, après, c'est vraiment le truc classique, tu sais, de Freud. Enfin, c'est vraiment tu refoules. Enfin, non, pas tu... En gros, c'est pas que tu refoules, c'est que tu ne penses plus à ta sexualité pendant un moment donné. Tu vois, tu y penses très fort petit, ensuite à un âge, tu es dans autre chose, les boutons, les trucs, les machins. Bon, j'ai toujours trouvé des. Après, je suis devenu ado, je trouvais les garçons un peu sexy, mais c'était pas le truc, tu vois, de fou. Ce qui est trop drôle, c'est que j'ai fait L, évidemment, et que les quatre mecs en L, on s'est revus 10 ans plus tard, on est tous gays. Et tu dis, putain, mais si on avait discuté un peu, les gars, on aurait un peu rigolé, quoi, tu vois. Bref, yeah. Et en fait, quand je suis... Mais j'avais toujours un peu des doutes sur ma sexualité. Et en fait, moi, j'ai connu vraiment qu'une fille... Enfin, j'ai fait l'amour la première fois avec cette fille dont j'étais amoureux. Et en fait, quand je l'ai connue, c'est très bizarre ce que je vais dire. Je pense que ça va peut-être choquer des gens. Mais à l'époque, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Parce que c'était comme... comment dire? On était moins éduqués à l'homosexualité qu'aujourd'hui. Les esprits, les mentalités étaient moins ouvertes. Moi, je sortais de l'histoire de ma mère, l'histoire du village, tout. J'étais le sale pédé, tu vois. Et en fait, quand j'ai connu ma première copine, je me suis dit, ouf. Je sais pas que je suis guéri parce que c'était pas une maladie, mais tu sais, je l'ai interprété comme ouf, je suis soulagé. C'était qu'un truc, c'était qu'une idée dans la tête en fait. Je suis pas, tu vois, parce que je la désirais vraiment charnellement, j'étais amoureux d'elle, enfin tu vois, donc c'était pas.
Ouais, c'était un soulagement pour toi de réaliser que en fait tu pouvais être excité par une meuf.
Complètement. Alors je sais, je crois que ces propos aujourd'hui en 2021 ils sont carrément honteux, mais en tout cas 20 ans en arrière je l'ai ressenti comme ça, tu vois.
Bah pas du tout honteux, tu
non, mais parce que les jeunes d'aujourd'hui sont hyper forts, c'est-à-dire que si tu veux, moi ils m'impressionnent, c'est-à-dire que ils ont des j'aime pas dire des couilles parce que c'est très enfin ça met de côté les nanas et c'est pas enfin ce truc là c'est un peu débile justement de dire ça, mais en gros ils ont un courage hallucinant. Ils ont 12 ans, ils font des coming out, ils sont gays à 11 ans, ils savent ce qu'ils veulent, mais pour le coup, mais je les admire. Moi, c'était une espèce de flux d'émotions contradictoires. Je n'en pouvais en parler à personne. Il n'y avait pas Internet.
C'est j'avais pas milieu, hein.
J'avais aucune référence. Il n'y avait rien. Je pouvais communiquer avec rien. On ne parlait pas de ça. Enfin, tu vois.
Ouais, non, mais les réseaux sociaux et Instagram, ça a vachement libéré. Mais quand même, tu as des milieux et certains milieux plus religieux.
Et je te jure, quand je tombais amoureux de cette meuf, il y a eu ce côté où c'était très naturel, donc je me laissais vivre ces sentiments, mais je me souviens, à un moment donné, quelques temps plus tard, pendant notre relation, il y avait réfléchi, il m'a dit, ouf, en fait, tu vois, c'était qu'une vue de l'esprit, quoi.
D'accord, et donc tu as eu ça avec elle, et puis même en étant avec elle, même en ayant des sentiments pour elle et en pouvant coucher avec elle, en étant excité par elle, tu t'es quand même, t'as quand même réalisé que tu avais envie de faire l'amour avec des garçons, quoi.
Non, ça ne s'est pas passé comme ça, pas du tout. C'est qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Tu sais, c'est la chanteuse Hélène Segarra qui m'a présenté mon premier mec.
Mais non.
Ouais, et après, attends, quand il m'a quitté, elle l'a viré de son staff, elle m'a présenté mon deuxième mec. Donc, autant te dire qu'elle m'a vraiment mis sur la voie de l'homosexualité absolue, tu vois.
Trop stylé, putain, mais tu connais Hélène Segarra, c'est un truc de malade.
Par hasard, en fait, j'ai rentré chez moi dans mon bled, j'habitais à Lille, je faisais mes études à Lille à la fac, j'avais 17 ans, parce que je suis en novembre, et du coup, j'avais raté le train. Et donc, j'avais 2 heures à tuer, elle passait en concert, et j'ai jamais été groupie ou quoi que ce soit, mais je me suis juste dit, ah, tiens, c'est fun. Elle est connue, elle passe dans la ville. J'aimerais savoir si elle est aussi mignonne qu'à la télé. Et du coup, je suis rentré, j'ai dit bonjour, je suis son cousin. Est-ce qu'Hélène est arrivée, machin, ce genre de truc. Mais, tu vois, t'as tellement de culot quand t'as 17 ans. Et finalement, j'ai sympathisé avec une nana un peu dehors. Et en fait, Hélène, elle est arrivée quelques temps plus tard. En fait, elle se connaissait avec la meuf. Et on m'a appelé 2 minutes plus tard en disant, bah, rentre, tu vois. J'ai sympathisé avec une copine à elle, quoi, en gros. Et donc, du coup, j'allais à son concert. Et puis, il y avait son maquilleur qui était vraiment le beau mec. Tu vois, c'était un peu le Ricky Martin de l'époque, quoi, tu vois, entre guillemets. Ouais. Et finalement, j'avais rencontré lui. Et puis, un soir, il m'a accompagné. Je crois qu'elle passait pour... Il y avait les MC Awards, je crois. Enfin, je sais plus. Et bref, il m'a accompagné. Il a essayé de me séduire. Et je lui dis, mais pas du tout. J'ai quelqu'un, je suis hétéro. Il m'a dit, ah, pardon, je suis absolument désolé et tout. Et en fait, ça m'a vachement...
Chamboulé,
tu vois. Et puis, tu sais, les premiers amours, ça reste des premiers amours dans le sens où moi, après, j'ai compris mon destin un peu volage. J'ai jamais trompé les gens, mais volage dans le sens découvreur de sentiments, tu vois. Donc, c'est-à-dire que la passion, elle est exaltée, exaltante dès le début, tu vois. Et puis après, ça s'étiole un peu. Et puis, j'avais 18 ans, changé de ville. J'étais enfin sorti de mon village pour arriver tout seul à Lille. Je voulais vivre, quoi, tu vois.
sûr.
Et donc, bah, j'ai quitté ma copine, quoi, et pour me mettre avec ce mec. Ouais.
Voilà.
18 ans et un jour, genre, tu vois.
Incroyable. Et via Hélène Ségara, quand même, c'est comme si limite l'homosexualité avait été dès le départ liée à l'art, quoi, en fait.
Elle a été extraordinaire, mais franchement, pour la, je l'ai revue chez Europe 1 il y a 2 ans, on s'est tombé dans les bras. Et franchement, cette meuf, je lui dois énormément parce que j'avais vraiment pas, quand je dis, j'avais pas de référent. Moi, j'avais très peu de communication avec ma mère, alors que ma mère elle était avec une nana, elle aurait pu me conseiller, on n'en a jamais parlé de nos vies privées vraiment et tout. Et si tu, j'avais pas des bons rapports avec elle. Et Hélène, elle m'a dit une phrase, en fait, parce que je pleurais beaucoup à l'époque parce que tu sais, je me disais, putain, mais je suis pas gay, machin, etc. Et Hélène m'a dit un truc génial qui a pas vieilli. Elle m'a dit, écoute, tu sais, que tu. En fait, on aime une âme, on n'aime pas un corps. Donc, à partir de là, tout est résolu. Tu es amoureux de quelqu'un, tu es amoureux d'une personne, tu n'es pas amoureux d'un sexe ou d'un truc, tu vois. Et en fait, c'était con, mais cette phrase, elle a tellement déclenché, elle a tellement zénifié ma vie et déclenché les choses, et dire, mais
Oui.
sois cool avec ça, évidemment, tu vois. Et
C'est
c'était les mots justes.
évident. C'est évident, c'est les mots justes parce qu'en fait, l'amour, il est le même. Enfin, tu vois, c'est ce que tu vois dans les films, quand tu vois les grands films. D'ailleurs, je sais plus, ça y est, j'ai vu que Netflix, ils avaient arrêté parce qu'à un moment, ils avaient une catégorie LGBT et je trouvais ça un peu débile parce qu'en fait, les films, les histoires d'amour, c'est des histoires d'amour, point. Il n'y a pas
Universel, ouais, bien
d'histoires
sûr.
d'amour gay et des histoires d'amour hétéro. C'est
Oh, bien sûr.
absurde, quoi. Quand tu vois
Ouais.
Call Me
Je
By
crois que
Your
c'était plus
Name.
une thématique plus facile pour faciliter une recherche, au genre de choses qu'ils avaient ça peut-être, tu vois. Mais c'était un peu maladroit, je te l'accorde.
Je trouve ça un peu maladroit parce que ça fait un peu sectaire communautariste. Je sais plus, en fait, j'entendais, je sais plus, mais je crois que c'est
Ça met
Xavier.
les gens à part, en fait.
Ouais, c'est Xavier Dolan dans le podcast aussi Coming Out qui disait que lui, ça le faisait chier, que ces histoires d'amour, c'est des histoires d'amour, quoi. Ensuite, il se trouve que si ça se
Non, mais
passe.
c'est casse-couille en vrai, bien sûr, il a raison.
Ouais, c'est un peu casse-couille, toi. Tu vois, il n'y a pas de. Il n'y a pas. Puis ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'un spectateur hétéro peut pas s'identifier. Enfin, c'est. Bien sûr que non. Enfin, à partir du moment où
Non,
c'est
c'est
une histoire
nimp.
d'amour, n'importe qui peut s'identifier. Point barre, quoi. Et
Ah,
voilà,
évidemment,
ça
évidemment.
fait déjà 1 heure et demie. Attends, il faut que j'arrive au questionnaire de fin. Je vais te poser des petites questions du questionnaire de
Ah
Proust.
mon Dieu, et on a
Mais
raconté des choses intéressantes ou pas trop?
ouais, non, c'est génial. C'est hyper touchant et deep. Et c'est incroyable. C'est un super épisode.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Allez, la qualité que tu
D'accord.
préfères chez un homme?
L'intégrité.
La qualité que tu préfères chez une femme?
La droiture.
Le principal trait de ton caractère?
Enthousiaste.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Leur humour.
Ton principal défaut?
Le sang chaud, j'ai le sang chaud.
Ton occupation préférée?
mon occupation préférée. Tu sais, si j'étais, je pourrais dire des trucs que j'aime bien faire et qui feraient de moi quelqu'un de très mystérieux. Je te dirais, ah, j'adore relire François Sagan au bord d'une crique sur une plage à Marseille de temps en temps. Tu vois? Mais je crois que mon occupation préférée, bah écoute, franchement, j'ai plein d'occupations. Donc, je sais pas en ce moment. Tu sais, je suis très infidèle pour les occupations. Tu vois, c'est des vagues d'occupation. Là, en ce moment, je suis à fond, je suis en train de tromper la mode avec la déco parce que je suis en train de meubler mon appart, tu vois. Et puis après, je vais être vachement focus sur un auteur ou focus sur Insta. Mais en vrai, je te dis la vérité, mais mon occupation préférée, ça fait un peu le mec qui c'est très facile, mais c'est vraiment quand je suis sur scène et qu'on fait des blagues et que je vois, mais pas que. Pas que les blagues, parce que les bides me font du bien aussi. Enfin, tu vois, dans le sens où, parce que je kiffe essayer, me vautrer, ça me fait. Moi, je suis toujours content parce que je me dis, OK, ça va, ça avance dans le boulot, quoi. Et puis
Ouais.
surtout, c'est ce qu'il y a autour et qui me manque beaucoup, c'est de croiser les gens. Même si ce n'est pas mes amis proches, c'est de croiser les gens, l'ambiance des comédie clubs, d'échanger avec les potes sur les potins, de prendre des nouvelles, d'avoir une espèce de petite famille, ça me manque beaucoup.
Ouais, c'est clair. Et ton idée du bonheur, alors?
Ben écoute, mon idée du bonheur, c'est vraiment une maison, tu vois, une maison à la campagne, ne pas avoir besoin de travailler, porter du lin tous les jours et avoir des enfants magnifiques, tu vois, qui on ferait la classe à la maison. Et voilà, et voyager au maximum et leur faire parcourir le monde et puis être heureux à 3 ou à 4. Voilà, c'est ça mon idée du bonheur. Et loin de tout, tu vois,
Ouais, je vois trop.
loin des gens, loin des gens, loin des gens, loin des gens.
Quel serait ton plus grand malheur?
Mon plus grand malheur, ça serait de, je vais te dire une chose. Bah, je pense que j'ai acquis d'autres choses, d'autres facultés. Ça serait de perdre tout ce que j'ai. J'entends, c'est-à-dire de me retrouver sans rien, en fait. Et de devoir, en fait, c'est pas, ça serait un malheur parce que je saurais le faire, mais flemme en vrai. Tu vois? Parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai un milieu qui est très modeste. Et alors, je suis pas loin d'être riche, pas du tout, hein, même, mais disons que je me suis battu pour avoir une vie un peu plus confortable. Tu vois? Et en fait, ça serait pour moi un grand malheur, par exemple, de te faire arnaquer, de tomber dans une arnaque, je sais pas, ou si tu entends toujours des artistes, ben, je pense pas me faire arnaquer un jour, mais tu sais qu'ils perdent tout et qu'ils se retrouvent à la rue du jour au lendemain alors qu'ils avaient tout. Putain, mais flemme, quoi. Oh, mais flemme, je pourrais le faire, j'ai été vendeur, serveur, shampoingeur, tout ce que tu veux, mais flemme de repartir à zéro, quoi. Flemme.
Ouais, non, mais je comprends. C'est très vrai ce que
Mais
tu
en vrai, je crois que mon plus, tu vois, il y a ça, et il y a aussi le plus grand malheur, c'est de te dire que tu as 75, 80 ans. Et en vrai, bah, j'ai jamais su garder quelqu'un. Tu vois?
Ce que tu détestes par-dessus tout.
Ah, l'intolérance. L'intolérance, ça englobe plein de choses. Ça englobe la beaufitude, ça englobe les mauvaises pensées. Enfin, tu vois, la non-ouverture d'esprit. Enfin, l'horreur, je déteste ça. Enfin, je déteste parce que c'est encore, si tu veux, être intolérant, c'est pas de la bêtise, parce que la bêtise, c'est de l'ignorance. L'intolérance, c'est tu sais, tu connais, mais tu ne tolères pas. Ah, mon Dieu, c'est rien de pire. Tu sais, je reprocherai jamais à quelqu'un son manque de culture, mais je reprocherai toujours à quelqu'un son manque de savoir-vivre. Parce que t'as pas de culture, ça dépend pas vraiment que de toi, ça dépend aussi de ton milieu, d'où tu viens, l'école, t'as peut-être arrêté à 15 ans, j'en sais rien, etc. Mais le savoir-vivre, c'est pas tes parents, hein, t'es adulte, c'est toi, tu sais quoi faire, t'as observé.
Ton état d'esprit.
Écoute, je suis un peu angoissé en ce moment. Assez angoissé parce que angoissé par pas mal de choses, par notre situation. Vraiment, hein. Parce que je me dis, je sais pas quand ça va reprendre. Ma vie, elle est entre parenthèses depuis un an. Je suis un peu angoissé parce que j'arrive pas tellement à me projeter, à voir sur l'avenir. Donc, je fais confiance. Faut lâcher prise, quoi, tu vois. Mais j'avoue que j'ai vécu plusieurs phases avec le confinement. Au départ, j'étais vachement dans un lâcher prise, un peu à la baba cool et tout. Et maintenant, plus ça dure et plus que ça commence à m'angoisser l'affaire, quoi, tu vois.
Bon, question pas très gaie. Comment aimerais-tu mourir?
J'aimerais mourir, je pense, d'une mort un peu spectaculaire.
Ah, j'adore!
Mon grand-père maternel, il est mort en rockstar. Et sa mort, elle est génialissime. Je t'explique. Mon grand-père maternel, c'était un chanteur de rock. Et j'ai retrouvé des fan clubs sur Internet et tout, tu vois. Et en fait, il faisait les premières parties des Dee Mitchell à l'époque, machin, etc. Et en fait, donc il a mis ma grand-mère enceinte et tout. Après, il a un peu disparu, histoire impossible. Il est allé le voir au premier rang de son concert, il la regardait pas. Enfin, bref, tout un truc très romanesque et tout. Et finalement, figure-toi qu'il est mort la veille de sa première télé avec Johnny dans un accident de bagnole. Et il y a que lui qui est mort dans la bagnole contre un arbre à 19 ans. C'est spectaculaire quand même, non?
C'est totalement spectaculaire et je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un truc,
Moi, je veux
non,
partir comme ça, comme un bam, tu
ouais,
vois.
comme comme un rire, quoi, comme un
Ouais,
truc.
je me retire comme ça.
Ouais, c'est trop beau. Hein. Et enfin, est-ce que tu as une devise favorite, un mantra, une phrase que tu te répètes, quelque chose comme ça, un truc un peu que tu te dis?
Bah, tu sais, ça fait un peu, ouais, c'est plutôt le côté, ouais, le côté, bah, on sait pas d'où on vient dans la vie. On ne sait pas d'où on vient, mais par contre, on peut aller quelque part qui est ce qui n'était pas prévu pour nous. Tu vois, tu peux emprunter un autre chemin. Ton chemin, il n'est pas tracé et puis tapis-toi pas. Ok, il y a plein de gens qui ont vécu des trucs durs. En vrai, tapis-toi pas. Quand tu as vécu des trucs durs, tu vas pas les vivre deux fois. Tu vas pas en plus te traîner ta peine toute ta vie, quoi. C'est bon. Enfin, tu
Ouais.
vois, ça va. Tu vas pas double sentence, non, quoi. Donc ça va, bouge-toi le fion et tu vois le truc. Et va où tu veux aller, quoi.
Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que la vie est pleine de surprises.
Mais complètement. Complètement, il faut, heureusement, t'imagines, ça serait trop. T'imagines si quand tu nais, ça y est, t'as ton programme. Non. Rosa, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir accueilli. C'était trop cool d'échanger avec toi, ça m'a fait trop plaisir.
Ah, moi aussi, c'était super. Je te fais plein de bisous, puis on s'envoie des messages sur WhatsApp.
Ouais, je t'embrasse, bisous Rosa,
Allez,
ciao.
merci.
Bye.
Alors, j'espère que cet épisode vous a plu, touché, fait rire, que le son n'était pas trop grésillant. Il y a des phrases comme ça que Jérémy a dites et qui sont, moi, mes phrases préférées à entendre. À un moment, il a dit, avant de raconter une anecdote, il dit, alors c'est pas très glorieux ce que je vais raconter. Et là, oui, mille fois oui, je me réjouis, c'est ma phrase préférée à entendre en podcast, suivie de quand Jérémy dit, c'est très bizarre ce que je vais dire, je pense que ça va choquer des gens, mais à l'époque, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et je suis là, mais merci, merci, c'est pour ça le podcast. Ce n'est pas un interview question-réponse de passer pour la meilleure personne du monde, c'est se livrer dans ses travers. Et c'est fou, en fait, que Jérémy, qui dit que c'était son premier podcast, ait si vite compris l'exercice, quoi, et qu'il n'ait pas tenté de cacher, ou, enfin, vraiment, il a livré, quoi, il a ouvert les vannes. J'espère que vous avez apprécié. Et nous, on se voit au point virgule, les mercredis à 21h15 à partir du 9 juin. L'adresse du point virgule, c'est 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, dans le Marais, vers Hôtel de Ville ou Saint-Paul. Vous pouvez réserver sur le site du point virgule ou sur Biéréduc. L'avantage de Biéréduc, c'est que vous pourrez me laisser une petite critique après si vous avez aimé. Ou si vous êtes plus téléphone, vous pouvez les appeler pour réserver au 01 42 78 67 03. Je vais essayer de trouver une caméra 5D pour filmer toutes les représentations parce que comme ça j'aurai ma capta, mais je ne me mets pas la pression sur un jour en particulier où c'est la captation. Je me dis je filme chaque représentation et comme ça me permet d'avoir différents plans, d'avoir les meilleurs passages et puis ça me permet aussi peut-être de faire un making-of avec au fur et à mesure les blagues qui partent. Et à vrai dire, moi j'aimerais tout filmer, même en plateau, j'aimerais même filmer. Les bides pour pouvoir faire limite, si j'arrive à écrire un nouveau spectacle, putain, je me lance dans des projets, je dis ça, j'annonce. Si jamais j'y arrivais, j'aimerais faire un documentaire sur l'écriture de ce nouveau spectacle et filmer mes bides et mes réussites en plateau et les analyser. Voilà, c'est un projet que j'ai. Je sens que je vais le faire toute seule parce que si j'en parle à des prods de documentaires, je sais pas, c'est toujours une galère. Déjà, j'ai demandé, c'est toujours une galère d'obtenir un 5D, je sens que je vais tout faire à l'iPhone. Mais bon, je me laisse tenter de vous faire écouter un petit truc. On est entre nous. Je vais vous faire écouter un nouveau test que j'ai joué cet après-midi en plateau. Je vous mets l'enregistrement.
Vous êtes des femmes aussi, parce que nous, en fait, quand tu prends la pilule et que tu mets des tampons depuis 15 ans, a priori, il n'y a pas de raison de. Vous savez que les tampons, c'est blindé de pesticides, en fait, c'est pour rendre le coton plus blanc. C'est hyper raciste, déjà. Et la pilule, en fait, c'est un risque de thrombose beaucoup plus élevé. En fait, le vaccin, c'est manger un yaourt périmé d'un jour, et la pilule, c'est manger des huîtres mauves qui parlent. Au revoir, ma mère! Ok, tu vois, t'avais pas, il fallait que j'ai mis le truc, mais d'accord. Les tests PCR, est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau trou potentiellement pénétrable? Je ne crois pas. Ça fait un peu mal, mais c'est pourtant bien. Oui, bah merci. Je connais. Est-ce qu'il va y avoir des soirées BDSM PCR? Ça fait beaucoup d'initiales, soirée BDSM, PCR, LGBTQ+, Max, soirée BDSM, PCR, je sais pas c'est quoi le concept, on me donne un petit coton-tige à l'entrée, et le but c'est de le mettre dans un max trou et de l'enfoncer le plus loin possible. Ça rentre par la narine et ça sort par l'urètre. Et le safe word pour tout arrêter, c'est Marlène Schiappa. Que tout le monde déteste, quoi. Les féministes, les machos, même les macronistes sont là, on supporte pas sa voix. Les masques, tiens, vous trouvez pas que c'est franchement c'est une arnaque, ça rend tout le monde beau. Ah stop, ça suffit quoi. C'est tellement chiant, franchement tu fais des films, t'es là, tu prolonges l'eye contact et non, 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 c'est relou quoi. C'est comme les lunettes de soleil, ça rend beau de ouf, franchement, c'est de la triche. Ou comme ne pas sourire aussi parfois. Vous avez trouvé les gens qui sourient pas sur la photo Twitter en disant
oh là. Je me suis un peu égarée. Hein.
Non, les masques. Franchement, les masques, il y a aussi un truc, c'est que c'est pas mal pour camoufler les émotions, mais moi ça marche pas parce que je suis très expressive des yeux. Donc on sent mon mépris même quand tu vois, je sais pas si ça se voit. Ok, ça c'est moins marrant.
Mais ça serait pas marché du tout.
Et autre chose sur les masques, les gens qui parlent en baissant leur masque, c'est qu'ils n'ont pas compris le concept du masque, tu vois. Ils sont là, ils gardent le masque, ils parlent pas, puis ensuite, ah oh, non, mais on va pas enfermer les schizophrènes dans des prisons. Garde le masque.
Je suis contente, ça marche.
Documentaire. Bon, c'est 7 mois en fait. J'ai passé ces 7 mois sur Netflix et beaucoup de documentaires, notamment sur les serial killers. Franchement, si je me fais buter, je pourrais donner des conseils aux meurtriers. Non, me jette pas dans la rivière si tu m'as pas démembré. Tu vas être complètement. Ah non, heureusement que tu m'as pas suivi parce que ta perceuse elle était pas branchée. Attends, ton scotch m'aurait mis un pansement pour enfant.
Ouais, non, marrant.
Documentaire. J'ai regardé un documentaire sur le potentiel danger des huiles essentielles. Je suis bien consciente que si tu regardes un documentaire sur le potentiel danger des huiles essentielles, c'est que ta vie manque cruellement de danger. Voilà. Fais quelque chose, je sais pas. Va à Gaza et écrit l'Israël, je sais pas. Quelque chose, histoire de pimenter, quoi. Parce que là, je te t'ennuie. J'ai regardé un documentaire sur le tantra. Le tantra, c'est faire l'amour sans se toucher. Instagram, quoi. Franchement. Moi, sur Instagram, je m'assure en regardant des photos de Timothée Chalamet. Vous voyez ou pas qui c'est, Timothée Chalamet? C'est l'acteur américain, je dirais qu'il a 14 ans. C'est chaud, putain, mes goûts se sont vachement radicalisés, en fait. Maintenant, je suis attirée par des mecs hyper jeunes qui pèsent la moitié de mon poids. Je suis là, ces petites jambes toutes maigres. Ah. Ou des mecs puissants, genre des supérieurs hiérarchiques, des mecs qui me dominent socialement. En fait, ça m'excite un peu le fait de pouvoir être. Qu'un mec me nuise, me blague,
je précise.
Qui respecte le consentement. Genre un mec bien, puissant, marié. Et moi, je suis là, non, dingue, le frisson de ta vie s'écroule. Et lui, mais non, 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 et moi, mais si. Donc c'est moi qui suis mis tout.
C'est pas encore clair.
Non, je suis pas clair, j'ai, oh oui. Non, mais alors, et par contre, je me disais, mais en fait, en tant que meuf, on aurait 10 000 fois plus de raisons d'être mis tout que les mecs. Parce que vous êtes attirés par tout ce qui bouge, franchement. Franchement, même une meuf avec un sac, tout avec un sac plastique sur la tête, une tortue avec un sac plastique sur la tête, vous n'avez plus de tortue sans sac plastique sur la tête, mais bref, tout. Alors que nous, on a tellement de critères. C'est tellement dur de trouver un mec qui nous attire, ne serait-ce que physiquement. Normal qu'on soit insistante quand on en a envie, tu vois. Et voilà, t'es sûr que tu veux pas. T'es sûr. T'es vraiment sûr parce que moi je veux et que ça m'arrive jamais. Je vous ai donné accès à un truc hyper intime. Je crois que c'était tout pour moi.
Ah bon, bah, comme quoi, hein, dans ce test, il y a des trucs encore flous parce qu'il y a des idées un peu complexes à faire passer qu'il faut que je clarifie. En fait, j'étais trop en roue libre. Il faut que je précise le texte. Il faut limite que j'apprenne par cœur et que ça soit moins parlé. Mais je sais pas si vous avez senti, en fait, je suis rentrée sur scène stressée parce que, en fait, j'avais dans la peau les bides d'hier face au public dur. Et donc, j'ai un peu boulé mon texte. Et dès qu'il y a eu les premiers rires, je me suis détendue. J'ai ralenti le flow. Et tout d'un coup, vous avez vu, c'est joli, quoi. On danse avec le public alors que c'est que des tests, mais ils m'accompagnent, quoi. Donc c'est vraiment top. J'ai partagé ça avec vous, mais je vais continuer d'améliorer ces choses. Il y en a certaines que je mettrai dans le spectacle, enfin, je sais pas, mais en tout cas j'avais envie de partager ça avec vous et merci d'avoir écouté jusqu'ici si vous êtes là et je vous embrasse très fort, gros bisous.
Cool fact. a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.